Pélisson, bonjour. Très heureux de vous rencontrer dans le cadre des 26e rendez-vous.
Je crois que c'est 25.
26, non, regardez, des rendez-vous Uni France à Paris, institution pour laquelle vous avez été élu président le 7 juillet 2023. Formation d'économiste, vous avez même un MBA à Harvard. Finalement, ce n'est pas incompatible avec la fonction que vous exercez actuellement, puisque, comme disait Malraux, le cinéma, c'est aussi une industrie. Finalement, aussi, on constate que chez Uni France, il y a un marché.
Il y a un énorme marché et effectivement, le chef d'entreprise que j'ai été... mais qui a beaucoup travaillé dans l'univers de la création. C'est ça ce qui m'a passionné en étant à la fois, j'ai travaillé chez Disney, j'ai travaillé chez Accor, et puis j'ai travaillé aussi chez TF1 que j'ai dirigé pendant 7 ans.
On va y revenir, et Bouygues
aussi. C'est cet univers-là qui est effectivement une, pour reprendre l'expression, une industrie, avec une offre, une demande, des attentes du public, des évolutions, un marché de la distribution, du marketing, et puis surtout des usages qui se bouleversent extrêmement vite. Donc ça ressemble étrangement à ce que beaucoup d'entreprises connaissent, en accompagnant leur marché, leurs fournisseurs, etc., etc. Donc c'est là où je crois que le parallèle peut exister. La grande caractéristique, c'est évidemment de se battre pour Uni France, pour l'exportation des contenus français, que ce soit notre industrie du cinéma ou que ce soit effectivement celle de l'audiovisuel.
Vous avez travaillé aux États-Unis, New York pour Novotel, à Los Angeles comme directeur marketing. Est-ce que c'est une culture vraiment différente de celle du vieux continent ?
Les Américains, oui, bien sûr. Je crois qu'à la fois, on a beaucoup de proximité parce que par définition, on le sait, ils ont exporté une partie de leur culture et nos générations, les générations précédentes ont été biberonnées avec les grandes séries américaines, les films américains et l'impact d'Hollywood, etc., etc. Mais on voit bien que dans le monde d'aujourd'hui, l'Europe a besoin de garder son... on va dire, c'est à la fois ses racines, sa culture, ses différences. Ça fait une richesse qui est absolument unique dans le monde. Et c'est sans doute au nom de ça que je trouve il est extrêmement important et précieux de se battre pour à la fois faire connaître ce dont on est capable en tant que Belge, en tant que Français, dans ce monde-là, et c'est certainement de plus en plus facile aujourd'hui. Enfin, il y a la difficulté de la multitude de créations, mais il y a aussi la facilité de le faire savoir, notamment grâce au web et aux produits digitaux. Donc c'est ça qui est assez fascinant dans ce monde-là. Mais surtout de pas se laisser dominer, on va dire, par une pensée américaine, voire chinoise, parce que les Chinois ont aussi beaucoup de moyens et ont de superbes entreprises, et sur lesquelles il nous faut rester à la fois très vigilant, modeste et compétitif.
Votre passage à Euro Disney, vous avez donc été directeur général, le PDG. Quelle est l'expérience que vous avez acquise dans cet univers de divertissement?
C'est surtout l'univers de la création. C'est-à-dire que la Walt Disney Company, à l'époque, et je crois que c'est toujours le cas, enrichissait son catalogue chaque année de contenu. Alors ça s'appelait des dessins animés, c'était des grands films, c'était des séries ou c'était des parcs à thème, avec une vraie volonté de toujours avoir un très grand souci de la qualité de la propriété intellectuelle. Et puis ensuite, n'avoir jamais peur d'avoir une culture populaire, pas élitiste. Et moi, c'est là-dessus que j'ai sans doute beaucoup appris. Parce qu'il est toujours plus facile d'aller vers une élite et de dire on est entre nous, il n'y a que nous qui comprenons ce dont on parle, que de s'adresser au plus grand nombre et de dire tiens, voilà un film qui a séduit des millions de gens. C'est très très compliqué.
Comment l'a dit
vous... Donc ça, si vous voulez, moi j'ai appris ça et je l'ai beaucoup respecté. Après, voilà.
c'est vrai que c'était
une expérience assez fantastique, et en plus les parcs eux-mêmes sont des expériences où vous prenez des contenus et vous allez les vivre en trois dimensions, parce que soudainement vous allez rencontrer voilà le roi lion ou ou Mickey et Minnie. Donc c'est ça, et le fait que pour à part Disneyland Paris, c'est vraiment le berceau de l'Europe. Donc c'était forcément des Italiens, des Espagnols, des Belges, des Hollandais, des Anglais qui venaient avec leur famille.
Une bonne expérience.
Si vous y avez été ou si voilà, c'est intéressant quoi de voir à peu près comment cela fonctionne.
Donc, comme on l'a dit, vous êtes passé chez Bouygues Télécom, TF1. La télévision, ce n'est plus l'ennemi juré du cinéma maintenant. Hein. On peut dire qu'on a enterré l'âge de guerre. Et la preuve en plus de ça, c'est qu'au rendez-vous, nous avons depuis 2 ans aussi une ouverture vers les séries.
On est de plus en plus dans ce monde très fluide qui s'interpénètre parce que à la fois les artistes eux-mêmes sont les premiers maintenant à dire mais attendez, c'est pas parce que j'ai fait un film que je peux pas faire une série. Vous en avez des exemples tous les jours et c'est tant mieux. Les plateformes nous ont importé ceci, c'est que nous en tant que consommateurs, je pense, et spectateurs, on a ouvert nos chakras, on a été habitué désormais à regarder des séries israéliennes, brésiliennes, espagnoles, belges, bien sûr. Mais donc, bon, qui est assez nouveau, quoi. Si on se remet sur une échelle de 10 ou 20 ans, c'est assez nouveau que le public, dans son propre pays, se dise, il n'y a pas que des séries qui viennent d'Amérique ou des séries nationales. Je vais regarder quelque chose d'autre chose. Donc ça a été le grand bénéfice. Et puis ensuite, elles ont quand même fait monter ce que j'appelle le niveau de jeu en investissant, parce qu'une fois que vous avez vu The Crown ou Game of Thrones ou Succession, c'est pas simplement des séries bon marché qui sont produites.
Mais quand on voit celles qui sont présentées ici, que ça soit
du sang, ce sont des séries qui sont extrêmement significatives et avec par leur investissement, par leur cast. Et donc ça, c'est, je pense que ça veut dire que ce monde de la télévision est en plein travail, et du coup le monde du cinéma s'en inspire, ça marche dans les deux sens, quoi.
Alors il y a une chose qu'on ne peut quand même pas éviter, c'est le problème de Pardieu. Surtout Bienard s'est un peu positionné. Est-ce que Unifrance a une voix unique où chacun l'exception culturelle dont on parle
Non, mais je crois que tout le monde est d'accord pour dire que Gérard Depardieu est un immense acteur avec une œuvre que personne ne pourra jamais enlever.
Contester, de toute façon.
Et qu'après on ne peut que regretter son attitude, ses propos, tels qu'ils ont été montrés là sous cet angle qui était quand même absolument terrible.
Il y a quelques années, la France et la Belgique avaient un petit froid, notamment en ce qui concerne le tax shelter, les aides régionales ou à l'image, Screen Brussels. La France était un petit peu revancharde et a aussi donné des avantages fiscaux. Est-ce que cette tension est un peu retombée selon vous?
Je saurais pas le dire aussi explicitement que cela. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Domensen en Belgique, puisque Newen, qu'on avait racheté en tant que studio pour TF1, avait racheté Domensen et on a fait des productions merveilleuses, dont Undercover. Et donc c'était des très très belles aventures. Donc là-dessus, je veux dire, moi, j'ai un très grand respect pour la production en Belgique. Bien sûr qu'elle est facilitée par les tax shelters dans un certain nombre de cas, mais vous avez énormément de talent, quoi. Donc c'est plutôt ça qui est intéressant, je pense, dans le monde d'aujourd'hui, quoi. C'est ce qu'il faut d'abord et avant tout regarder. Et après, les États entre au sein de l'Europe, parfois se font la guerre entre eux. Mais enfin, c'est voilà.
Et je crois que c'était l'année dernière, Daniela Esner, donc votre directrice, me parlait des démarches à l'égard de l'Amérique du Sud. Et il semblerait que maintenant ce soit plus vers l'Asie que vous tourniez. Vous serez en mars au Japon, à Yokohama.
Oui, je serai en mars à Yokohama parce que c'est vraiment un festival qui est important et sur lequel un certain nombre d'artistes français viendront. Le marché japonais est un marché en soi qui est intéressant. On a la Corée du Sud. Il y a d'autres marchés qui peuvent être en plein développement et qui nous voilà. Il y a la Chine aussi qui peut s'ouvrir ou se refermer, mais qui est aussi en forcément un formidable potentiel et où vous avez pas mal de cultures françaises et de cinéphiles et d'amoureux de la France. Là où effectivement l'Amérique du Sud, c'était la nouveauté de ces rendez-vous là 2024. On a cherché à les faire venir histoire de bien leur montrer, parce qu'on sait qu'un certain nombre de pays sont aussi avec une valence très forte européenne, et autant leur tendre la main et avec soit sur des salles, soit sur la diffusion à la télévision, des possibilités de distribution.
Vous êtes élu pour un mandat de 3 ans. Quels sont les objectifs que vous êtes fixés en tant que président ?
C'est surtout de continuer à porter dans ce monde où effectivement on a autant de chamboulements, notamment par rapport à l'univers du digital, ce rayonnement des contenus français très convaincu, et l'exemple de l'année 2023 est un formidable exemple, c'est-à-dire de cette richesse et de cette diversité, puisqu'on va d'un Miraculous en animation, en passant par Jeanne Dubarry, film en costume, en passant par Astérix, grande super production plutôt dans la comédie, en passant par une belle course avec Lynn Renault et Danny Moon, qui est une comédie mais avec une belle histoire également derrière tout cela.
Et puis les mousquetaires
en costume, etc. Hein. Et avec un casting formidable. Et puis Anatomie d'une chute, le thriller, le drame. Il y a plusieurs genres qu'on peut y retrouver et qui est un film exceptionnel. Et puis il y a La Patiente de Dain Bouffant où on ne sait pas encore s'il ira.
Ça vous fait les Golden Globes et les Oscars en même temps.
Et tout ça, on peut se dire, c'est quand même une telle richesse que ça mérite qu'on leur donne les moyens, évidemment, de s'exporter. Donc ça, c'est la mission première d'Unifrance, que l'on renforce désormais avec le digital, puisqu'on a My French Film Festival, qui est cette plateforme qui permet à des gens qui sont à l'autre bout de la planète de voir des films, soit gratuitement, soyennant un tout petit abonnement. Ces films français, je crois qu'on aura 80 films sur la plateforme My French Film Festival, donc c'est assez extraordinaire. Et puis aussi ce qu'on a fait avec My Meta Stories, qui était une façon plus d'aller cibler plutôt les jeunes, et avec un accord avec Minecraft, donc on est plus dans l'univers du vidéo, mais qui fait que si on a envie de continuer à évangéliser et à donner envie d'aller soit au cinéma, soit de regarder sur internet des contenus français. C'est comme ça que donc c'est ça ce qui me drive, pour les 3 ans qui viennent, c'est d'avoir ces moyens là et puis en même temps d'être vigilant sur des problèmes comme l'intelligence artificielle, comme la transparence des plateformes, où encore aujourd'hui on n'a pas la transparence des chiffres suffisamment partagée, puisqu'on connaît par cœur les chiffres du box office. Ça fait juste 50 ans qu'on connaît les sorties de cinéma, on connaît les ratings de télévision tous les jours et à la seconde près ou à la minute près. Les plateformes, ça reste quand même un monde très fermé.
C'est encore plus fermé en Belgique, de toute façon.
Mais c'est un combat, je pense, collectif. Aussi bien pour les Américains, parce que les producteurs américains ne connaissent pas les chiffres que font leur production en dehors des États-Unis. Si vous leur demandez, ils ne le partagent pas. Et il n'y a que la plateforme qui garde ses données. Et ça, cette transparence de la donnée, c'est quand même une des prochaines frontières qu'il faut qu'on arrive à franchir de façon collective. Je ne dis pas que la France doit être la seule, mais c'est très très important dans le partage de la valeur.
Les grèves historiques qu'on a connues à Hollywood, est-ce qu'elles ont eu un impact au niveau français et est-ce que finalement les créateurs français sont mieux lotis malgré tout en ce qui concerne cette intelligence artificielle et sur les diffusions des plateformes?
Je pense que les lois du travail, la façon dont les intermittents du spectacle sont traités en France sont très différentes évidemment du marché du travail américain. Donc ça, je veux dire, on peut pas faire de parallèle direct là-dessus. Ensuite, l'inflation est évidemment passée par là, donc elle affecte les métiers, elle affecte les professions, et donc c'est vrai que la revalorisation des salaires et tout ça est un vrai sujet, quel que soit le pays. Ensuite, le rapport à l'intelligence artificielle. Alors, les grèves, on verra quels sont l'impact des grèves d'Hollywood, parce que est-ce que ça sera une opportunité peut-être pour que sur l'année 2024, il y ait un peu plus de place, ayant peut-être moins de blockbusters américains, ouais, ou qui soient décalés dans le temps, peut-être que les productions européennes, et notamment, j'espère, françaises, pourront en bénéficier quelque part. Mais on sait aussi qu'il faut des blockbusters américains pour attirer le public en salle. Mmh. On l'a vu avec Oppenheimer, avec Barbie, ouais, ou Super Mario, qui ont été des grands, grands, grands succès dans nos salles en France. Donc ça, il faut pas non plus, vous voyez, que se réjouir que dans un sens, parce qu'il y a forcément quelque chose de plus équilibré, à analyser pour le futur. Mais ça va donner quand même une année 2024 qui sera un peu chamboulée. Ouais, ouais. En France, on aura aussi les Jeux Olympiques, qui peuvent, notamment sur la région parisienne, sur certaines grandes villes, un peu aussi certains opérateurs de salles de cinéma sont un peu inquiets aujourd'hui en se disant voilà, les gens n'iront pas nécessairement au cinéma pendant cette période-là, parce que forcément il y aura beaucoup beaucoup d'activités dans nos pays. Donc à la fois on va tous se réjouir d'avoir les Jeux Olympiques, et en même temps bon, ça sera peut-être un tout petit peu perturbant sur cette période-là. Et ensuite, par rapport à l'intelligence artificielle, c'est vrai que tout le monde est aujourd'hui est exposé à l'intelligence artificielle de façon certainement un peu inégale, mais on peut y voir à la fois le côté bénéfique de l'automatisation, et donc ça certainement avec une capacité pour raccourcir des délais de production, des fabrications, dans l'animation notamment. Enfin, il y a déjà beaucoup beaucoup de choses qui se sont faites, mais il y a un souci extrêmement légitime de la part des artistes, de nos professions, et moi je le vois dans tous les syndicats que nous représentons, sur du bon usage de l'intelligence artificielle, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'aujourd'hui, en prenant 3-4 minutes de la vie de quelqu'un, d'expression de quelqu'un et tout ça, par le morphing, par l'intelligence artificielle, des avatars extrêmement sophistiqués, on puisse recréer un film
complet.
Voilà, qui fait que finalement, on n'a plus besoin de demander à cet artiste de se mobiliser pendant des heures et
ou
des journées. Et qu'on peut plus reproduire sa voix. Enfin, tout ça doit être sans doute encadré. C'est ce sur quoi, je crois, la plupart des gouvernements et des États travaillent, notamment l'Europe. Et très légitimement, nous, on doit être, en tant qu'Unifrance, très au courant et très au parfum de tout cela pour travailler avec nos confrères autour de la Terre et se dire, voilà, c'est quoi les bonnes pratiques, les meilleures pratiques, au fur et à mesure, en plus, que ces logiciels évoluent, parce que c'est un monde en perpétuel mouvement.
Merci, Monsieur le Président. Et donc, bon rendez-vous.
Merci beaucoup.